Moi, j'arrivais avec la production porcine, mais une grosse partie du chiffre d'affaires de l'IA, c'était la production laitière. À ce moment-là, c'était pratiquement 50% du chiffre d'affaires qui venait du laitier. Puis moi, quand je regardais les deux entreprises globales, ben, dans le laitier, on était pratiquement pas présent. Fait que, tu sais, là, je voyais un upside assez important. Donc, oui, en achetant IEL, ben, tu sais, il y a un chiffre d'affaires qui était peut-être dédoublé parce qu'on le revendait. Par contre, là, on avait la main, tu sais, il y avait un intermédiaire de moins, puis on avait la main directe sur, je dirais, la marge complète, pas la marge d'un revendeur. Puis, on arrivait aussi avec un chiffre d'affaires 100% nouveau qui était celui du laitier.
Vincent Nadeau-Morissette, tu es propriétaire du groupe IEL, un regroupement d'entreprises dans le domaine agricole qui compte plus d'une centaine d'employés et 25 millions de chiffres d'affaires annuels. La construction de ton groupe s'est faite via plusieurs acquisitions étant survenues au cours des dernières années, également des lancements d'entreprises. C'est un sujet, les acquisitions, qu'on va aborder en détail ensemble aujourd'hui. Vincent Nadeau-Morissette, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une belle expérience pour moi. Je suis vraiment content de participer à ton podcast.
Ben écoute, t'as tellement une belle histoire, Vincent, que ça vaut la peine d'en discuter. Et parlons peut-être un petit peu de ton groupe pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce qui vous démarque un peu de la compétition?
Bon, ben parfait. Dans le fond, avec le groupe d'entreprise, on est capable d'offrir aux producteurs agricoles une solution complète pour le projet de construction ou de rénovation d'agrandissement pour le bâtiment agricole, donc pour l'élevage, là, principalement dans les trois productions on va dire majeur pour le Canada, soit la production laitière, production avicole, le poulet et œuf, et aussi la production porcine.
Et je pense que, Vincent, corrige-moi si je me trompe, mais l'entrepreneuriat, c'est une histoire un peu de famille. J'écoutais dans des entretiens, ta mère, je pense qu'elle était à son compte, toujours à son compte, ton grand-père. Ramène-nous peut-être un petit peu, quand tu étais plus jeune, est-ce que déjà tu avais des parents qui donnaient des trucs et des astuces et qui te poussaient à essayer de bâtir peut-être des premiers projets par toi-même?
Oui, ben absolument. J'ai tout le temps été élevé dans une famille où que les gens étaient à leur compte ou travaillaient dans leurs projets. Mes parents n'étaient pas employés ou salariés par une entreprise ou par le gouvernement. Ma mère était coiffeuse depuis les tout débuts avec un salon où elle louait des chaises, puis à d'autres coiffeuses. Puis Bernard, dans le fond, a tout le temps été dans une compagnie de transport. Il a démarré sa compagnie de transport. Il en a vendu deux. Il y en a encore une aujourd'hui qui est assez majeure. Donc ça, c'est un peu l'environnement dans lequel j'ai été élevé. Puis mon grand-père aussi a toujours été à son compte comme peintre en bâtiment. Mais dans le fond, j'ai tout le temps vu ces personnes-là libres un peu de leur choix, de leur horaire, bien entendu, bien des heures d'appliquer, mais quand même, tu sais, toujours de la disponibilité de regarder une opportunité ou de faire quelque chose. Fait que moi, j'ai été élevé là-dedans. Fait que pour moi, c'était naturel d'être comme ça.
Donc, la pomme n'est pas tellement tombée loin de l'arbre. Et à quel âge c'était clair pour toi que tu allais te lancer en affaires? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est accentué plus que tu vieillissais ou dès très jeune, tu savais qu'à un certain moment dans ta vie, tu allais avoir ton entreprise?
Ah, tu sais, moi, j'étais ingénieur de formation. J'ai un cerveau assez cartésien. Puis l'entrepreneuriat, on ne l'apprend pas vraiment à l'école. Fait que j'ai tout le temps été intéressé par la business, comprendre comment les business marchaient. J'allais dans un restaurant, je comptais le nombre de places. Je m'intéressais un peu à savoir comment ils pouvaient faire pour faire fonctionner leur entreprise. Mais de comment faire puis de comment se lancer, c'est venu un peu plus tard. Tu sais, dans le fond, je me suis lancé à l'âge de 30 ans. Mais depuis que je me rappelle le plus loin possible, j'ai tout le temps été intéressé à acheter des trucs ou les revendre, contrôler quelque chose avec une marge, valider la marge. J'ai tout le temps été intéressé par ça. Mon grand-père, il avait une ferme chez lui, puis je levais des poulets que je revendais. Moi, tu sais, je calculais mes choses. Ça, c'est quand j'étais assez jeune. Fait que j'ai tout le temps été là-dedans. Mais l'appel pour dire un jour, je vais vraiment me lancer est venu un peu plus tard, vers 30 ans.
Un peu plus tard. Et on en parlera dans quelques minutes. Mais avant toute chose, il y a une anecdote que je trouvais intéressante en faisant mes recherches. Tu viens de nous dire que tu analysais les restaurants, combien qu'il y a de nombre de places, donc tu pouvais faire des calculs de chiffre d'affaires. Je pense que ces calculs-là, tu les as fait également avec une animalerie. Tu calculais peut-être comment faire de l'argent avec des hamsters. Ouais. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus à notre audience?
Ouais, ben ça, c'est vraiment jeune. Là. Dans le fond, moi et mon frère, on se rendait en vélo d'une animalerie pas loin de chez nous. Puis, c'est sûrement, j'avais vu la comment ça se vendait un bébé hamster à l'animalerie. On était allé à la bibliothèque, là, j'avais trouvé un livre qui disait que les hamsters avaient tant de bébés par portée, tant de portées par an. Fait que je voyais dans cet animal-là un beau potentiel. Puis la madame à l'animalerie avait dit qu'elle serait d'accord de mes acheter. Fait que bref, avec ma mère, je me suis lancé dans l'élevage d'hamsters, mais ça n'a pas été un succès parce qu'au final, les deux hamsters que j'avais achetés, c'était deux mâles.
Oh, c'était plus difficile.
Mais les calculs étaient faits, puis c'était quand même... voilà, c'était une première expérience, mais ça, j'étais encore au primaire à ce moment-là. Fait que c'était dans les tout débuts, on va dire ça.
Dans les
mais
tout débuts.
Pas un succès.
Bon, au moins, tu as été capable d'apprendre, c'est ça l'entrepreneuriat. Et bon, ouais, tu nous as parlé un petit peu plus tôt que ton cerveau, il est cartésien, tu as étudié en ingénierie à l'Université Laval. Tu as étudié comme pour devenir ingénieur agricole. Après tes études, tu as finalement travaillé pour IL, Service agricole. Ramène-nous peut-être un petit peu études, début sur le marché du travail, comment tout ça se déroule?
Oui, parfait. Ben, dans le fond, quand j'étais à l'université, moi, j'ai travaillé dans des fermes porcines, des fermes laitières. Tu sais, c'était vraiment important pour moi, vu que je n'avais pas d'une famille agricole, de pouvoir baigner là-dedans, parce que c'est ce qui m'intéressait malgré tout. Mais je voulais être en mesure de pouvoir bien comprendre la réalité des producteurs. Et j'ai fait ça pendant les études à l'université. Puis, suivant l'université, j'ai fait 3 ans de juniorat chez PG Expert à Saint-Anselme, une firme qui avait dans l'agroalimentaire. Par la suite, j'ai travaillé presque 5 ans chez Aliments Breton comme ingénieur interne. Aliments Breton, c'est une famille qui est en production porcine au Québec, là, un peu connue avec leur viande bio, puis leur viande avec des niches spéciales. Là-bas, j'ai pris en charge toute, on va dire, la conversion de le bâtiment, puis la rénovation de le bâtiment vers le bien-être animal, vers des accréditations un peu plus poussées. Puis c'est un peu là que je me suis rendu compte, tu sais, de l'ampleur des projets, c'est quoi ça impliquait aux producteurs, puis tout ce qu'ils devaient contrôler comme sous-traitant ou comme intervenant dans leurs projets. Puis oui, par la suite, je suis arrivé chez IL comme chargé de projet. Une entreprise que je connaissais déjà parce que j'avais fait un stage là quand j'étais à l'université. Donc, c'est une entreprise de la région là, où ma famille vient, assez importante dans les équipements d'élevage. Je la connaissais bien. En plus, ça avait été un de mes fournisseurs quand j'étais chez Aliments Breton comme ingénieur. Donc, une entreprise que je connaissais. Là-bas, j'ai été chargé de projet, puis aussi représentant pour les équipements d'élevage, principalement dans le porcin à ce moment-là.
Mmh. Et au meilleur de tes connaissances, parce qu'on va en parler beaucoup de IEL aujourd'hui, qu'est-ce qui avait marqué ton imaginaire à l'époque avec cette entreprise? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'elle était peut-être un petit peu plus importante, intéressante à tes yeux, avait des points qui pouvaient la différencier sur le marché comparativement à ses compétiteurs? Parce qu'on va en venir dans quelques minutes. Finalement, tu as acheté la division agricole. Donc, il devait y avoir des choses dans cette entreprise qui ont marqué ton attention.
Ouais, c'est une entreprise qui est vraiment importante, je dirais, dans Chaudière-Appalaches, qui est reconnue cette année. Cette entreprise-là, elle a 57 ans. Fait que c'est une entreprise qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de connaissances à l'interne. Puis c'est une entreprise aussi qui a traversé des crises là, tu sais, dans l'agricole. Il y a des cycles. Les productions laitières et puis avicoles sont plus stables parce qu'elles sont contrôlées par la gestion de l'offre, mais la production porcine, c'est très cyclé. Fait que c'est une entreprise qui a traversé ces cycles-là, donc qui a une bonne connaissance des enjeux. Puis c'est une équipe aussi qui pas le personnel, il y a plusieurs personnes qui sont à 15 ans et plus d'expérience dans l'entreprise. Fait que ça, l'expertise puis le renom de l'entreprise, pour moi, c'était quelque chose qui était clair dans ma tête. Fait que une position d'intro-production à ce moment-là qui était pas optimale à mon goût, mais quand même une bonne position puis une bonne reconnaissance dans le marché. Donc, une entreprise solide, là, pas de doute.
Mmh. Et tu mentionnais un peu plus tôt que finalement, l'entrepreneuriat, tu t'es lancé à pieds joints à 30 ans. Mais avant toute chose, comme tu le dis, tu as eu certaines expériences dans le domaine du travail, dans certaines organisations. Je lisais un peu, par contre, que quand tu étais chez IEL, tu travaillais, tu mettais beaucoup de ton temps dans l'entreprise, mais déjà le soir, les fins de semaine, tu commençais à avoir d'autres projets, tu investissais du temps, tu investissais de l'argent dans ces autres projets-là. Est-ce que ça commençait à se matérialiser tranquillement dans ta tête que peut-être tu allais quitter ultimement l'entreprise et de lancer à ton compte? Est-ce qu'il a été là l'élément déclencheur?
Ben moi, j'ai fait ça toute ma vie, avoir un side hustle. Quand j'étais chez Aliments Breton, j'avais acheté une ferme là, dans Bellechasse avec 2 terres puis une grange. Puis je l'exploitais, la ferme, en même temps que je travaillais à temps plein pour eux autres comme ingénieur. Donc, j'ai tout le temps été dans 40 heures ou du 35 heures. J'ai jamais connu ça. Quand j'étais à l'université, je travaillais dans une shop de plastique. Fait que j'ai tout le temps été comme ça. Et à un certain moment donné, à force de rencontrer des clients pour IEL, je me suis rendu compte que clairement, il y avait plusieurs de ces clients-là qui étaient laissés à eux-mêmes avec des projets. T'sais, oui, ils engageaient un ingénieur, ils engageaient un contracteur, ils achetaient des équipements, mais au final, c'était eux autres qui pilotaient leur projet. Puis, tu sais, ces producteurs-là ou ces clients-là, au day-to-day, ils sont tous à côté. Ils travaillent tous 60 heures, 70 heures, 80 heures par semaine. Du jour au lendemain, il faut qu'ils continuent à faire leur ouvrage. Mais en plus, il faut qu'ils gèrent leur projet. Fait que j'ai eu à ce moment-là une opportunité quand même importante. Puis par mon expérience aussi, c'était quelque chose que je connaissais, tu sais, de piloter des projets complets. Fait que j'en ai discuté avec les propriétaires d'IEL de l'époque. Puis je leur ai dit, moi, je pense que j'aurais une idée pour une business qui serait complémentaire à la vôtre. Ce que je leur ai proposé à ce moment-là, c'est de partir avec Global Concept, le service d'ingénierie, en complémentarité à IEL, mais de rester dans mon mandat de représentant chargé de projet quand même. Fait que dans le fond, je leur ai dit, moi, je vais vous livrer les mêmes résultats en termes de chiffre de vente et en termes de suivi client, mais en plus, je vais accompagner un peu plus les clients quand ça les intéresse ou quand ça répond à un besoin, bien entendu, mais avec Global Concept, l'entreprise que je voulais démarrer à ce moment-là sur le site. Fait que c'est ce qui s'est passé.
Donc, c'est là que je comprends, parce que je regardais un petit peu sur ton curriculum vitae et tu es resté chez IEL jusqu'à 2019, mais Global Concept, tu l'as lancé en 2017. Donc, d'où ces deux années où est-ce que tu mettais un petit peu de ton temps à droite et un petit peu de ton temps à gauche, là?
C'est ça. À ce moment-là, écoute, c'était du matin jusqu'à temps que je me couche à tous les jours parce que là, j'avais vraiment les deux mandats concrets. Puis, j'avais encore la ferme à ce moment-là, la ferme que j'ai encore, mais que j'exploite plus. Mais bref, on a pris des décisions. C'était l'arrivée de notre plus vieille aussi avec ma conjointe. Fait que ça a été quand même une année mouvementée. Mais par contre, dans ces années-là, le marché agricole était vraiment en explosion. Fait qu'il y avait de l'ouvrage partout. Fait que tu sais, pour démarrer, ça a été un bon timing. Oui, ça demandait beaucoup de temps. Mais quand même, l'ouvrage était au rendez-vous. Les autres consultants en ingénierie étaient très impliqués dans la production laitière. Moi, j'arrivais avec mon background plus production porcine. Ça répondait vraiment à un besoin. Puis, c'était win-win avec IEL parce que, tu sais, les propriétaires m'ont donné cette chance-là de me partir puis de garder quand même mon emploi. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une synergie qui créait un momentum, tu sais, avec plus de projets, plus d'accompagnement. Fait que, non, ça a été un, deux ans, ben, je dirais quand même assez intense, mais en entrepreneuriat, de toute façon, c'est rarement pas intense. Mais ça m'a donné une belle chance de démarrer puis de rester proche de cette entreprise-là aussi.
Et qu'est-ce qui a fait qu'en 2019, finalement, t'es sauté à pieds joints?
Ben, dans le fond, à ce moment-là, j'avais des employés dans le concept. Tu sais, je commençais
ça devenait plus concret.
C'était concret, Global Concept. Puis je sentais aussi que là, je répondais peut-être moins bien aux besoins qu'elle avait envers moi. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai délaissé l'emploi, on va dire, mais j'ai continué à travailler en synergie avec eux autres parce qu'à ce moment-là, on est devenus les distributeurs avec Global Construction de leurs équipements dans le porcin. Fait que la synergie était encore là, mais elle était différente. Tu sais, j'avais plus le lien d'employé, mais on travaillait encore avec eux autres à chaque jour.
Mmh. Et là, j'aimerais que tu décortiques un petit peu à notre audience comment le groupe tranquillement se construit. Parce que là, tu as parlé de Global Concept, mais tu as également parlé de Global Construction. Donc, tu as l'entreprise Global Concept qui a été lancée en 2017, comme on l'a mentionné. Il y a une organisation de construction qui s'intègre à travers tout ça. Peux-tu nous donner les années reliées à ces différents lancements pour essayer de bien situer l'audience? Et par la suite, on analysera un petit peu la croissance de ces différentes lignes d'affaires.
Ben parfait. Dans le fond, c'est ça, Global Concept. J'ai démarré ça en 2017 seul, on va dire, comme ingénieur. Rapidement, j'ai fait des embauches, par contre, dans cette entreprise-là parce que les projets, finalement, que j'amenais, ben, moi, je faisais le développement des offres, la représentation, puis on va dire la gestion. Mais le day-to-day des projets d'ingénierie, ben, j'ai eu rapidement besoin d'embauche. Fait qu'on s'est ramassé quelques employés dans cette entreprise-là rapidement. Puis ma vision était claire, tu sais, oui, il y avait un trou dans l'offre au niveau de l'ingénierie, mais quand même, moi, j'étais convaincu qu'il y avait un besoin pour un des projets clés en main, un des projets complets. Approcher un producteur, puis dire, regarde, moi, je m'occupe du début à la fin, si c'est ça ton besoin, de l'ingénierie jusqu'à l'entrée des animaux. Fait que Global Construction, de jour 1, je l'avais dans ma tête, mais J'ai démarré, on va dire, officiellement en 2017 aussi, mais les premières embauches, ça a été plus en 2018.
Donc, 2018.
Ouais.
Première embauche de Global Concept 2018.
De construction, oui. 2018, construction, puis 2017, concept.
OK. Donc, les choses sont allées assez vite. Et dis-moi, à quelle vitesse tout se prend? Parce que là, moi, je faisais des recherches. Et tu disais dans un entretien que j'ai été capable de trouver qui date du 15 novembre 2020 que tu avais connu une croissance de 1200% au cours des 5 premières années. Habituellement, quand il y a ce type de croissance-là, il y a 1, 2, peut-être 3 éléments déclencheurs qui expliquent l'accélération. Au meilleur de tes connaissances, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez été capable de prendre le marché aussi rapidement?
Oui. Pour la production porcine, il y avait clairement un trou dans l'offre. Fait que ça, on a pris une place assez rapide. Puis comme je disais au début, il y avait de l'ouvrage en grande quantité dans ces années-là. Fait que oui, notre offre était appréciée, mais en même temps, il y avait des projets à ce moment-là, surtout en construction, qui étaient retardés parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs disponibles. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'ouvrages. Fait qu'on s'est placé à ce moment-là. Puis aussi, ce qui a créé le plus gros momentum dans la croissance, c'est le moment où on est tombé distributeur pour IEL. Dans le fond, là, toute la vente des équipements porcins passait par nous. Fait qu'on s'est ramassé une première année.
Avez-vous d'exclusivité?
Dans le porcin, oui, pour le Québec. À ce moment-là, on travaillait en exclusivité avec eux autres. Fait qu'on s'est ramassé rapidement avec un chiffre d'affaires autour de 12 millions qui était boosté, oui, par les ventes d'équipements, mais aussi par le fait que, à ce moment-là, des projets de maternité, ben, il y en avait beaucoup. On en a ramassé des projets avec une compagnie qui était très jeune, on va dire, des gros projets, tout au début. Fait qu'on a plongé là-dedans, on va dire, sans apprentissage, je pourrais pas dire ça. On a appris beaucoup. On a créé nos structures internes aussi à ce moment-là. Mais la croissance a été, on va dire, fulgurante au départ. Ça, il n'y a pas de doute.
Oh, wow! 12 millions de chiffre d'affaires. Quelle année environ?
Ça, 12 millions, c'était en 2019.
2019, et là, tranquillement, en 2020, c'est là que vous allez faire l'acquisition de la division agricole de IEL. Avant qu'on parle de tout ce qui s'est suivi par la suite, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements là pendant 2020, je laisserai notre audience laisser aller un peu leur imagination, comprendre ce que je veux dire. Mais comment se déroule un petit peu l'envie de dire, là, peut-être que ça serait le temps d'aller chercher cette division-là pour notre prochaine phase de croissance.
Tu sais, souvent, l'entrepreneuriat, plus tard, tu te rends compte, tu te dis, c'est sûr qu'il y a eu des étoiles d'alignées à ce moment-là pour que tout s'emboîte de cette façon-là. Soit qu'on le crée ou soit que ça nous arrive, mais bref, j'avais été approché par le... Un peu des deux, souvent, ouais. J'avais été approché par les propriétaires de IEL pour racheter un des deux associés qui quittaient. Mais là, à ce moment-là... L'opportunité, c'était racheter l'entreprise en entièreté qui comprenait une division agricole que je connaissais très bien, mais une division industrielle aussi de sous-traitance manufacturière que je connaissais pas du tout. Ça fait qu'on a fait quelques approches, on s'est parlé. Il y avait un bon fit avec la personne qui restait en place, mais je voyais pas ma valeur dans un groupe d'entreprise comme ça. Le temps que j'aurais à investir aussi par rapport à mes deux autres entreprises. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de backer, on va dire, sur cette offre-là. Non pas sans incertitude, on va dire, mais je voyais vraiment pas la synergie avec la division manufacturière. Puis à peu près au même moment, moi, j'avais rencontré une coopérative assez importante au Québec qui venait de fusionner 5-6 coopératives dans l'Est du Québec. Puis eux autres, dans une de ces coopératives-là, il y avait une division de vente d'équipement qui était à la Pocatière. Fait que j'avais commencé des discussions avec le directeur général à ce moment-là, le CEO. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre division d'équipement, tout ce que tu veux faire, tout ça. Fait qu'on avait déjà eu quelques rencontres, puis à un moment donné, tout bonnement, le propriétaire d'IEL est revenu me voir, puis il me dit, si je te vendais juste l'agricole, mais à 100%, ça ferait pas pour toi. Fait que là, j'en ai discuté avec Aventis, Michel Delisle là-bas, puis il y avait une bonne synergie avec eux autres, vraiment un bon fit. Eux autres, ils allaient être investisseurs passifs dans leur tête, mais aussi clients, parce que c'est des grands producteurs agricoles. Fait que là, le fit était clair pour moi. Ça allait pouvoir donner de la synergie aussi à mes deux autres entreprises. On a commencé les discussions, on avait rédigé un petit ça à ce moment-là. Fait que l'opportunité s'est présentée, je dirais, à peu près 2 semaines après que j'avais fait une rencontre avec Aventis. Fait que c'est, quand je dis des timings, là, ça en était tout un.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette division agricole? C'est à quoi ressemble la grosseur des équipes? J'imagine qu'il y a peut-être beaucoup de matériaux également. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'au final, je pense qu'on parle ici d'un achat d'actifs, là. Je me trompe?
Ouais, dans le fond, c'est exactement, c'est un achat d'actifs parce que là, l'entreprise IEL limitée a resté existante, mais avec la division sous-traitance. Pour moi, ce qui était nouveau un peu dans cette acquisition-là, c'est que Global Concept puis Global Construction, à l'époque, étaient pratiquement dédiés uniquement à production porcine parce que moi, c'était mon background qui était là. Avec l'acquisition d'IEL, ben, on ajoutait un volet production laitière au niveau de la ventilation avec un réseau de distribution au Québec et dans l'est de l'Ontario, une vingtaine de distributeurs pour notre solution de ventilation. Puis, il y avait aussi un petit volet à ce moment-là à Avicole. Donc, il y avait une certaine diversification dans ce move-là. Puis, je voyais aussi un potentiel de momentum pour Global puis Global Construction de pouvoir être traîneux dans ces deux productions-là où on était moins présent. Donc, ça faisait, dans l'analyse, tout faisait du sens. La seule chose qui était un peu nouvelle pour moi, c'est que là, je partais de deux entreprises de services. Oui, avec un peu de distribution d'équipement, mais à une entreprise qui est manufacturière un peu, mais beaucoup de distribution avec l'importation internationale, les gros inventeurs à supporter parce que la construction au Québec est cyclique. C'est pas une grande nouvelle, mais dans le fond, la livraison puis l'installation des équipements suit la construction. Fait que c'est cyclique aussi. Fait qu'on s'est ramassé dans IEL avec une équipe, par contre, que je connaissais très bien. Puis c'était peut-être un grand avantage de faire l'acquisition d'une entreprise qu'on connaît l'équipe, qu'on connaît quand même. On connaît pas tout, bien entendu, mais pas mal plus de connaissances qu'une compagnie que j'aurais jamais travaillé avec. Fait que c'était une équipe à ce moment-là, peut-être de 40-45 personnes. Dans le prospectus, la moyenne d'ancienneté, c'était presque 10 ans. Fait que tu sais, c'était une profondeur d'équipe et un know-how qui était vraiment important. Fait que, tu sais, un système ERP intégré dans la structure de l'entreprise puis utilisé à chaque jour à 100%. Fait que, tu sais, on partait avec une entreprise solide, une entreprise mature, puis des systèmes internes, puis de la connaissance interne, puis un know-how qui était présent. Fait que, tu sais, c'était quand même vraiment intéressant. Plutôt que de dire, ben, on va partir dans l'équipement, mais on va faire un start-up de zéro.
Tu as le brand, tu as l'intelligence d'affaires, tu as l'expérience, tout ça qui s'intègre. J'aimerais revenir au point, tu dis, je pense d'une entreprise de service à une entreprise essentiellement de distribution. Peux-tu nous donner portrait clair de ce que représente avant l'acquisition le pourcentage de tes activités dans le service et par la suite, à quoi ressemblait le pourcentage après l'intégration, l'acquisition, l'achat d'actifs de IEL, si on regarde le groupe dans son ensemble?
Ouais. Ouais, dans le fond, l'ingénierie et Global Concept, ça, c'est 100% de service. Fait que la seule chose que tu veux, à peu de choses près, c'est du temps. Donc, la croissance d'une entreprise comme ça, c'est par l'embauche de personnes. Puis, les ingénieurs agricoles, ben ils s'en forment pas beaucoup. Puis, généralement, ils arrivent avec peu d'expérience, donc il faut les former. Fait que c'est certain que moi, la croissance m'anime. Assez rapidement, je me suis rendu compte que dans l'ingénierie, oui, je pouvais faire de la croissance, mais ça va être plus raisonnable, on va dire, parce qu'il faut former les personnes. Il faut que le marché, ben il y ait l'ouvrage pour ça. Fait que ça, c'est une chose. Dans la construction, ben oui, à un certain moment, on distribuait les équipements d'IEL. Donc là, il y avait une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui était liée à de la distribution. Mais c'était quand même la distribution qui était assez simple parce que si on achetait puis on revendait, on gérait pas d'inventaire. Ouais, c'est ça, on était un intermédiaire. Donc à ce moment-là, quand je parlais de 12 millions, ben c'est certain qu'il y a une grande partie de ce chiffre d'affaires-là, peut-être 50%, qui était lié à distribution via IEL, mais le reste c'était quand même du temps qu'on vendait, des matériaux de construction qui sont aussi de la distribution simple, mais beaucoup de temps, beaucoup de gestion de projet. Puis ça, c'est la même chose, la construction, ben oui, tu peux faire de la croissance, tu rembauches des équipes, mais en même temps, il faut qu'ils apprennent, tu sais, comment qu'on travaille, la qualité qu'on veut, nos processus internes. Fait qu'à chaque fois qu'on faisait une phase de croissance, en embauchant de la main-d'œuvre de construction, qui est un peu plus disponible, on va dire, que des ingénieurs agricoles. Ben, à chaque fois, il y avait un peu une perte d'efficacité ou de rentabilité parce qu'encore là, il fallait former, faire jouer des erreurs, tu sais, impliquer du temps. Fait que je voyais encore là que oui, la croissance, ça va être possible, mais d'une manière plus raisonnable pour pas impacter, tu sais, la performance d'entreprise. La qualité du service, parce que tu sais, au final, une entreprise de construction, c'est son nom là, qui fait qu'elle a des contrats. Le prix oui, c'est sûr, un impact, mais en même temps, si t'es moins cher, mais t'as pas une bonne renommée, t'en auras pas une. Fait que ça, assez rapidement, je me suis rendu compte des limites de la croissance que j'avais là-dedans. Puis, quand je regardais IEL, ben, je me disais, là, c'est de la distribution. Fait qu'il y a une équipe de chargé de projet, une équipe d'acheteurs, de représentants. Et s'ils commencent une grosse année, une grosse croissance, j'ai pas nécessairement besoin d'embaucher à 100%, tu sais, pour combler. C'est, l'acheteur, il peut acheter plus de produits. LPO va être plus gros, mais c'est pas nécessairement plus d'ouvrage. Oui, dans plusieurs cas, il y a de l'ouvrage de plus d'associés, mais c'était, je voyais là un axe différent pour la croissance dans IEL. Puis je voyais aussi qu'IEL allait pouvoir traîner concept puis construction dans de la croissance plus raisonnable, mais par la synergie que ça allait créer dans les deux autres productions. Donc là, ça venait répondre à mon besoin de croissance. Puis je me retrouvais avec la distribution où là, j'avais moins de limites. On va dire ça comme ça.
Et là, j'aimerais peut-être juste confirmer certains points. Donc, avant l'acquisition de IEL, vous êtes un distributeur exclusif des différents produits. Il y a un bon volume de chiffre d'affaires qui s'installe, à peu près 50 % des ventes, comme tu nous le dis. Quand vous intégrez IEL à ce que vous faites, là, maintenant, vous êtes plus simplement un intermédiaire. Donc, ça change un peu la catégorie, là.
Oui, absolument. Ça change la catégorie. Tout. Ça change tout. Et comme tu dis, dans le fond, moi, j'arrivais avec la production porcine, mais une grosse partie du chiffre d'affaires de l'IEL, c'était la production laitière. À ce moment-là, c'était pratiquement 50 % du chiffre d'affaires qui venait du laitier. Et moi, quand je regardais les deux entreprises globales, ben, dans le laitier, on était pratiquement pas présent. Fait que, tu sais, là, je voyais un upside assez important. Donc, oui, en achetant IEL, ben, tu sais, il y a un chiffre d'affaires qui était peut-être dédoublé parce qu'on le revendait. Par contre, là, on avait la main, tu sais, il y avait un intermédiaire de moins, puis on avait la main directe sur, je dirais, la marge complète, pas la marge d'un revendeur. Puis, on arrivait aussi avec un chiffre d'affaires 100% nouveau qui était celui du laitier puis celui de la vicole aussi. Fait qu'à ce moment-là, ben, on voyait, comme je disais, le potentiel de croissance pour les deux autres. On voyait aussi le potentiel dans IEL parce que, tu sais, moi, j'arrivais avec un background agricole, mais les propriétaires de l'époque arrivaient avec un background, eux autres, industriel. Fait que c'est certain que je voyais aussi un potentiel de croissance dans IEL. Parce que l'entreprise, à différents niveaux, n'était pas poussée comme elle aurait pu l'être.
À quel point j'aimerais rebondir sur le fait où est-ce que tu mentionnes que les ventes étaient dédoublées? Là, bien entendu, on s'entend si 6 millions de vos ventes ou à peu près viennent de la distribution. Quand vous allez acheter une entreprise, ben, ces ventes-là ne vont pas être redoublées. Elles existent déjà. Tu viens simplement couper l'intermédiaire ici. Donc, si on exclut un petit peu le volume d'affaires, mais qu'on s'attaque vraiment aux bénéfices, là, à quel point tu as été capable, avec ta structure, ta compréhension de l'organisation, d'augmenter ton profit brut? Parce que c'est souvent ça qu'on veut faire dans une acquisition. Mixer des synergies, trouver un petit peu les incohérences, enlever, pardonnez-moi, le gras qui s'installe dans une organisation et améliorer la rentabilité. Comment as-tu été capable d'attaquer le tout et quel a été le résultat un peu au final de tout ça?
Ça a été majeur. Honnêtement, okay. ça a été majeur à quel point... Ben, tu sais, il y avait moi qui prenais de la maturité, on va dire, comme entrepreneur. Il y avait moi aussi qui devait décider de faire une croissance raisonnable. Fait qu'il y a eu un impact à ce niveau-là. Et par contre, quand on est arrivé avec IEL, pour le groupe d'entreprise, ben là, on était capable de penser à des ressources qu'on pouvait embaucher où on n'était pas capable avant parce que le volume d'affaires, la synergie aussi avec Avantis, sauf qu'eux autres arrivaient avec un potentiel de support, on va dire, au niveau légal ou au niveau comptable ou au niveau contrôleur, plus important. Mais le fait que le volume était rendu plus gros nous a permis d'embaucher un contrôleur qui nous a aidé beaucoup dans la construction à comprendre vraiment notre structure de coûts. Des ressources humaines, ben, on a été capable d'en embaucher. Fait que là, on a mis en place une mutuelle de prévention, la santé sécurité. On dirait que c'est à ce moment-là que je peux dire que les entreprises sont devenues pas un start-up là, qui est en course puis que on fait des processus, mais tu sais, on va trop vite. Là, on a fait un petit break. Le marché aussi agricole à ce moment-là a connu un peu un ralentissement, comme plusieurs autres marchés, mais avec le COVID et tout ça. Fait que ça nous a tout permis à ce moment-là de regarder, d'analyser ce qu'on faisait en intégrant IEL avec un back-office un peu plus plein, je dirais. Là, ça nous a permis de dire, OK, c'est quoi nos axes pour vraiment être rentable dans la construction, vraiment être rentable dans l'ingénierie. Fait qu'à ce moment-là, je dirais, les entreprises sont devenues matures, vraiment matures. Les structures étaient claires. pas tout le temps clair à 100%, mais plus clair que ça avait jamais été. Donc, à ce moment-là, on contrôlait mieux nos coûts, la croissance, on avait une meilleure vision de ce qu'on voulait, et qu'on n'embauchait pas trop vite pour mettre beaucoup de pression sur de la croissance comme on avait fait les autres années d'avant. Fait que cette période-là, pour nous autres, pour les trois entreprises, ça a été une période vraiment où que là, les entreprises sont devenues rentables, puis on s'est dit, OK, là, on tient quelque chose, on a un 16 présentement qui nous permet d'être rentable puis de bien vivre. Oui, on peut faire de la croissance, mais là, on a atteint un certain niveau qui permet de dire que ces entreprises-là sont plus en start-up, plus saines financièrement puis plus solides aussi.
Et pour situer l'audience, c'est 25 millions de volume d'affaires annuel que vous faites maintenant. Quand IAL a été intégré au groupe, là, tu nous parles un petit peu du profit brut, un petit peu de la rentabilité. La profitabilité qui s'est intégrée en intégrant la troisième ligne d'affaires à ce que vous faites. Qu'est-ce que tu as senti pour les autres entreprises en termes de synergie de croissance? Est-ce que tu as senti que ça t'aidait peut-être à aller augmenter ton volume de l'organisation de construction, augmenter ton volume également de l'entreprise d'ingénierie? À quel point tu sentais que dans le bassin de clients, il y avait des synergies qui pouvaient s'installer pour que toi, tu puisses aller vendre des services de l'entreprise à la nouvelle entité C et vice-versa?
Ouais, dans le fond, on l'a fait de plusieurs façons. Si j'ai un exemple bien simple, mais une valeur ajoutée qu'on a chez IAS, c'est quand on met un équipement, on a des plans d'installation. On a des plans de branchement électrique, par exemple. Ben ça, on avait un service interne, mais on le ferait aussi avec Global Concept quand on l'intégrait au plan du bâtiment. Fait que ça donnait un service encore plus précis pour les clients. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que dans IEL, ben, vu qu'on vend beaucoup d'équipements, le service d'installation qu'on offre dans Global Construction à ce moment-là, ben, a connu de la croissance parce que là, on rajoutait la ligne d'affaires du laitier. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on faisait très peu avant. Fait que je dirais pas qu'on installe tout dans le laitier, bien entendu. Mais quand même, il y a eu une bonne croissance à ce niveau-là, puis ça nous a amené sur des projets dans l'ouest de l'Ontario, dans les maritimes. Fait que là, il y a eu une synergie évidente. C'est certain qu'il y a, la capacité de projet annuel est beaucoup plus élevée que ce qu'on pourra jamais faire dans l'ingénierie et dans la construction. Fait que est-ce que IEL a amené des projets de construction? Dans certains cas, oui, parce que les équipes de vente sont un peu partagées aussi. Mais par contre, ce que ça nous a permis, c'est de faire notre marque, de dire on a fait affaire globale, on a fait affaire avec IEL, puis tu sais, ils se sont occupés de tout. Ça a bien été. Moi, ça m'a permis d'avoir un projet qui rentrait dans le budget et aussi qui rentrait dans le temps, parce que c'est souvent ça l'enjeu. Fait que oui, il y a eu de la croissance. Ce qui a été dommage, entre parenthèses, c'est que cette croissance-là a été un peu limitée par le fait que le marché, lui, a connu une décroissance d'intro-production. Bien entendu, les taux d'intérêt, tu sais, la production porcine est en crise présentement. Fait que le potentiel de croissance qu'on aurait pu avoir par cette synergie-là, il y en a eu un, mais il a été limité par le fait que le marché, lui, a connu une décroissance, on va dire, dans les trois dernières années.
Je comprends. Ça fait énormément de sens. Et je lisais également, et peut-être même on en a parlé il y a quelques semaines de cela ensemble, corrige-moi si je me trompe, mais ta structure opérationnelle dans chacune des entités au moment où on se parle, je crois que dans certaines d'entre elles, tu as des associés opérateurs. Peut-être tu veux nous parler un petit peu de comment tu as structuré ton architecture pour faire en sorte que les entités soient capables de rouler le plus rapidement possible?
Oui, absolument. Dans le fond, dans Global Construction en 2018, moi, j'ai fait l'embauche à ce moment-là de François Berthiaume, qui était un gars avec qui j'avais un fit personnel que je m'en suis rendu compte automatique, mais que je trouvais dès le départ qu'on était vraiment complémentaires. On a travaillé ensemble 2 ans, une relation employé-employeur, mais il était directeur des opérations. Parce que moi, la compagnie de construction, c'est certain que je me voyais pas l'opérer proprement dit avec les gars chaque jour. Parce que oui, j'avais une expérience dans la gestion des projets de construction. Mais moi, je pouvais pas expliquer à un gars nécessairement comment faire les travaux de construction. Fait qu'avec François, ben, je suis venu combler un peu ce besoin-là de formation puis d'expertise terrain. Puis assez rapidement dans nos discussions, moi, j'y avais clairement dit que dans ma tête à moi, Global Construction, j'allais devoir avoir un associé opérateur. Puis moi, je voulais rester en développement des affaires, back office, admin. Puis c'était fait là. Pour nous deux, on voyait 100% de synergie. Fait qu'on a avancé là-dedans. Fait que François y a intégré avec 25%. Il y a bientôt 3 ans. Puis en début d'année 2023, un autre 25. Fait que là, on est 50-50. Dans un partenariat vraiment complémentaire. T'sais, on fait jamais les mêmes choses. Fait qu'on se complémente et on arrive à livrer les projets. Fait que ça, pour moi, ben, ça m'a permis aussi de me libérer, je dirais en parenthèse, une partie du day to day de Global Construction. Parce que là, j'allais avoir beaucoup de temps à investir dans IEL. Puis, pour compléter cette ronde-là, on va dire, de synergie, ben, dans le fond, avec Avantis, qui est mon associé dans IEL, ben, on a eu des discussions, puis on a fini par en arriver à la conclusion qu'on allait vendre Global Concept à IEL. C'est un peu bizarre à dire, mais encore là, pour aller chercher une synergie au niveau de l'administration. Fait que, oui, Global Concept, c'est un service d'ingénierie, fait que ça nécessite une entreprise distincte au niveau des assurances, des choses-là. Par contre, l'entreprise est détenue par IEL. Donc, à ce moment-là, ben, moi, je suis le comité de gestion, j'ai ajouté une chaise qui est Global Concept. Fait que, ça m'a aussi simplifié ma structure. Puis, ça a aussi donné accès à Global Concept à une équipe RH, une équipe, on va dire, admin, beaucoup plus importante parce que, tu sais, l'entreprise est plus petite. Fait qu'elle n'avait pas accès à ces choses. Fait que là, on a encore fait une ronde de synergie cette année à cette année. Fait que oui, la structure m'a permis maintenant d'être capable de m'impliquer dans trois entreprises en ayant des joueurs clés comme François dans construction, d'associer avec moi ou que chacun trouve son compte. Parce que si on avait eu des forces communes ou qu'on aurait fait les mêmes choses, ben, tu sais, dès le départ, on aurait vu qu'il y avait
sur les pieds.
Ouais, c'est ça, exact.
Et toi, ton temps, il va où maintenant?
Ben, mon temps, il va en développant des affaires quand même pas mal. Opportunités de croissance, d'acquisition. C'est sûr qu'il y a du détoudé un peu, mais par contre, ça a fait 3 ans l'acquisition d'IEL. Le comité de gestion est vraiment mature maintenant. On a défini un peu les balises de chaque poste de directeur. Fait que moi, l'autonomie des directeurs, c'est vraiment important pour moi parce que je veux être capable de regarder pas juste aujourd'hui, mais regarder le futur. Fait que c'est certain que toutes les acquisitions, les potentiels de croissance que je regarde, ben encore là, je cherche aussi de la synergie pour les trois entreprises. Fait qu'il y a du day-to-day, il y a du développement des affaires, un peu de comptabilité puis d'analyse, mais aussi bon, du stratégique. Fait que croissance, acquisition, synergie, ce qu'on peut faire de plus comme synergie. Ça, je mets beaucoup de temps là-dessus.
Mmh. Comment vois-tu la suite? Les 12, 24, 36 prochains mois, comment sens-tu que ton groupe va être capable d'aller chercher encore plus de croissance, voire même de l'hypercroissance?
Ben, c'est certain que ce que j'ai senti dans les 3 dernières années, c'est que, on va dire, les tartes ont rapetissé un peu, mais notre port a grandi. Fait que je vois de la croissance dans
c'est
le
bon
fait
signe.
Que... Ah, exact. Tu sais, exemple, la production porcine, ben moi, je dirais que la tarte a rapetissé de 50%. Mais notre pointe a grandi beaucoup. Fait que on a l'équipe qui est prête la journée que la production porcine sort de sa crise pour prendre des projets. On a faim pour des projets. Fait qu'il y a une phase de croissance qu'on voit organique de cette façon-là par le retour d'un marché. Par contre, il y a de l'acquisition aussi qu'on voit nécessairement. L'objectif, c'est de devenir un peu séparer en 3 notre chiffre d'affaires de façon le plus équitable possible pour que quand il y a une crise dans une des productions, on soit capable de rebondir avec les 2 autres. Fait qu'on garde des acquisitions, on veut aussi agrandir notre territoire. On s'est donné comme vision qu'on voulait être leader dans l'Est du Canada. Fait que c'est certain qu'on veut aller dans l'Ouest de l'Ontario, mais aussi dans les maritimes. Fait qu'il y a des potentiels d'acquisition. Plusieurs distributeurs d'équipements, c'est des compagnies, je dirais, où les propriétaires se rapprochent tranquillement de leur sortie. Fait qu'il va y avoir des potentiels de consolidation là-dedans. Dès le départ avec Avantis, on s'était donné comme vision aussi d'être potentiellement consolidateur de ces entreprises-là. Fait qu'il y a bien du potentiel pour nous autres dans la croissance. Aussi dans la construction, ben, exemple, on développe des maritimes beaucoup. Ben, là-bas, il y a un besoin au niveau des contracteurs en bâtiment agricole. Fait que cette année, on a fait un projet à Moncton et un projet à l'Île-du-Prince-Édouard. Fait qu'il y a de la croissance potentielle là-dedans pour la compagnie de construction. Comme je disais, une croissance contrôlée, mais là, on en voit une. Même si le marché a ralenti, on voit qu'il y a encore des trous pour nous autres pour prendre la place. Puis, bien entendu, les acquisitions qu'on ferait avec IEL amèneraient également de la croissance pour les 2 autres entreprises parce que c'est des nouveaux marchés. C'est les mêmes productions, mais des nouveaux secteurs, des nouvelles régions. C'est un peu la vision, là. C'est encore de créer une synergie pour les 3 entreprises au travers des acquisitions.
Un terme important pour vous, le terme synergie, ça fait tellement de sens si on est capable de faire en sorte que 1 plus 1 ultimement égale 3 au lieu de simplement 2. C'est là qu'on est capable d'aller plus vite et bien entendu de faire en sorte d'utiliser ces fameux effets de levier. Vincent, avant de terminer le podcast, j'aime toujours poser des petites questions personnelles. On a parlé beaucoup de business aujourd'hui, de certains mécanismes, certaines analyses qui peuvent s'intégrer au niveau des consolidations à faire entre deux entreprises. Tu t'éduques comment? Est-ce que tu lis certains livres d'affaires? Est-ce qu'il y a certains ouvrages qui ont marqué ton imaginaire?
J'ai découvert l'année dernière les livres audio. Moi, je fais beaucoup de route parce qu'on a des clients un peu partout dans la région au Québec. Fait que oui, des livres audio, j'écoute ou je lis uniquement des livres d'affaires. Là, je suis pas. C'est juste ça que j'écoute ou que je lis, mais j'ai lu ou écouté plutôt récemment Build to Sell,
oui.
que j'ai vraiment aimé. Moi-même, je l'ai écouté deux fois. Tu sais, quand j'ai démarré les entreprises, moi, j'avais une vision un peu de rendre une entreprise à un certain moment donné autonome, pas dépendante de moi à 100%. Puis, j'ai retrouvé un peu ça dans ce livre-là. Good to Great, que j'ai écouté aussi, que j'ai bien apprécié. Working Backwards, là, qui parle un peu de l'histoire d'Amazon. Bref, j'en écoute plusieurs, mais c'est pas 100% de ce qui est dit dans ces livres-là, tu sais, qui est pertinent pour moi, mais quand même, il y a toujours un bout qui est pertinent. Fait que j'essaie de l'intégrer dans mes routines. Fait que je consomme beaucoup de livres business ou affaires.
Très intéressant.
Oui. Mm. Parce que j'ai beaucoup de temps sur la route, fait que ça me permet d'écouter sur des livres audio ou des podcasts.
Parlons de podcasts, qu'est-ce qui joue dans ta voiture quand tu fais de la route?
Ben, comme je t'avais dit, hyper croissant, j'en manque pas un.
C'est bon, ça.
J'aime vraiment les sujets, puis ça me rejoint à 100% dans moi, comme entrepreneur. J'ai commencé récemment à écouter Acquisition Anonymous, qui est un podcast un peu au sud des États-Unis, mais ils viennent présenter des entreprises à Londres, un peu des analyses avec des comptables du monde. Fait que ça challenge aussi mes idées quand j'évalue des potentielles acquisitions. Puis, dans une autre ordre d'idées, mais dans les règles de l'immobilier aussi, j'aime bien l'écouter. Il y a souvent des parcours assez inspirant. Je veux dire, je suis pas courtier immobilier, mais je m'intéresse pas tant non plus à l'immobilier, mais par contre, des histoires un peu à succès de personnes qui ont explosé là, dans leur carrière. Fait que j'en ai tout plein d'autres, mais c'est, je dirais, peut-être les trois plus que j'écoute le plus.
Et on termine routine. Quelle est ta routine avant, pendant et après le travail? Là, j'ai cru comprendre. C'est ça que t'as une famille, t'as certains enfants, donc peut-être ça change un petit peu la dynamique, là.
Ouais, c'est ça. On a deux filles avec ma conjointe, là, une qui va avoir 8 ans, puis une qui a 3 ans. Puis nous autres, on habite en campagne, là, c'est fait que pour aller travailler, c'est une demi-heure, 40 minutes de route.
Quand même.
Fait que la routine est beaucoup basée sur la routine des enfants. C'est quelque chose aussi que j'ai appris à apprécier. Pas être 100% de mon temps tout le temps en travail comme je l'étais quand on avait juste notre plus vieille et qui était plus jeune. Fait que ma routine, je dirais, ce qui est important pour moi, c'est le temps sur la route, là, de pouvoir un peu préparer ma journée ou décanter ma journée. Ça me permet d'arriver le soir et d'être plus présent, on va dire, mentalement avec ma famille. Fait que c'est un peu ça. La routine est basée sur les enfants puis un peu, bien entendu, le travail.
Intéressant. Vincent, merci énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur toi ou sur l'entreprise, meilleur endroit pour vous rejoindre?
À LinkedIn, j'ai une page personnelle, mais aussi les entreprises ont toutes leurs pages Facebook et LinkedIn également. Donc, je suis joignable par ces plateformes-là assez facilement.
On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Vincent Nadeau-Morissette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Histoire très intéressante, un mix d'apprentissage, comme employé dans certaines entreprises, lancement d'organisation, acquisition, fusion, synergie, bref, plusieurs thèmes qui, à mon avis, vont grandement intéresser notre audience. Donc, je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.